Nous allons parler d'un sujet intitulé « Les héros dans l'ombre ». Nous vivons une époque où la notoriété joue un grand rôle. Nous vivons une époque où tout le monde a la capacité de se faire connaître par Facebook, par YouTube, par WhatsApp. Tout le monde a la capacité d'être en quelque sorte populaire. Et déjà, depuis longtemps, c'était le cas. L'homme aime être reconnu, être accepté, aime être populaire. C'était la troisième tentation de Jésus. Qu'est-ce qu'on a proposé à Jésus par Satan lors de la troisième tentation? On lui a demandé de tomber du haut du pinacle de temple, donc le point très haut du temple. On dit « tombe !» Et comme c'est écrit, les anges vont te récupérer. Au fait, le but c'était quoi? Tu tombes, les anges te récupèrent. Tout le monde va voir que tu es tombé de plus de 50 mètres, 30 mètres. Et tu n'es pas mort, on t'a récupéré comme sur un par un parachute ou bien le tissu que mettent les pompiers. Donc tu es vivant après avoir fait une telle chute. Qu'est-ce que ça produit après? La célébrité, la popularité, le succès. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent dans ce piège-là de ne faire que des choses qui vont leur apporter de la reconnaissance et de la popularité, une certaine célébrité. Beaucoup de vidéos circulent sur Facebook, YouTube, d'évangélisation des gens dans les métros, à gauche, à droite. Ce n'est pas, entre guillemets, mauvais d'évangéliser dans les métros, d'évangéliser dans les rues. Mais lorsqu'on a fait un sujet de publicité, ce n'est plus pour Dieu qu'on le fait, mais c'est pour que les gens voient. Et beaucoup de jeunes chrétiens sont touchés par cela et ils veulent pareil, faire pareil. Et à gauche, à droite, nous voyons des chrétiens sans église, sans autorité, qui font des actions personnelles, filmées. Et ça passe YouTube, chacun se bâtit son succès personnel comme ça, avec le nombre de vues sur YouTube. Aujourd'hui, tout le monde peut être célèbre, il suffit que ta vidéo soit transmise à beaucoup de personnes. C'est un des pièges du chrétien, mais d'autant plus à notre époque. À notre époque, c'est ça la grosse difficulté. Et à notre époque aussi, pourquoi? Parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de choses qui se font instantanément. Il y a le café instantané, il y a les distributeurs de tout. Tu mets ta carte, tu peux acheter tout. Il y a des distributeurs, même dans certains pays comme la Belgique, il y a des distributeurs de pain. Il y a des distributeurs pour tout en Belgique. Et à cause de ça, nous ne voulons faire que des choses qui nous apportent un résultat direct. Je veux bien évangéliser, mais je veux du résultat. Je veux bien donner un don, mais je veux de la reconnaissance. Je veux exister. Nous vivons une époque où les gens veulent exister. C'était le cas avant, mais notre époque rend cela beaucoup plus accessible à tout le monde. Et les gens n'adorent plus Dieu en secret. Ne vivent plus pour Dieu, mais ils vivent pour la reconnaissance et pour les autres. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Nous lisons dans Luc 14, 7 à 14. Luc 14, 7 à 14.
Je lis au nom de Jésus. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit : Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. »
Amen. Le Seigneur montre bien que ce n'est pas vain ce que nous faisons. Il dit, mais ça nous sera rendu à la résurrection des justes. Mais il dit, il ne faut pas chercher la première place. Il ne faut pas chercher à être vu quand on fait des choses. Il faut faire les choses par amour. Et il faut faire les choses, s'il faut chercher une récompense, pour la récompense céleste qui viendra après notre mort. C'est cette récompense qu'il faut chercher, pas une récompense terrestre qui peut se manifester par un grand résultat ou bien qui peut se manifester par la reconnaissance des humains, l'applaudissement des humains, la célébrité. Non, il faut chercher la récompense céleste. Sinon, il faut juste faire les choses par amour pour Dieu. C'est ça qui doit nous motiver. Et nous vivons une époque où de plus en plus, chacun cherche à exister, comme on a la possibilité avec les vidéos, WhatsApp et autres, de se faire connaître. C'est pourquoi il m'est venu à l'esprit de parler des travailleurs dans l'ombre, des héros dans l'ombre, des gens qui font des choses dans l'ombre des autres, mais qui sont considérés comme précieux par le Seigneur, importants par le Seigneur, car c'est ça qui compte. On a beau être plébiscité dans un quartier, mais ce n'est pas ça qui fera de nous quelqu'un accepté par toute la nation. C'est le juge de la nation qui déterminera qui est le véritable premier. Ce n'est pas ton quartier. Ce qui compte, c'est le véritable juge. C'est Dieu lui-même. C'est si lui t'apprécie ou pas. Parce que tous les petits juges terrestres passeront. Viendra le jugement de Dieu lui-même. Comme pendant 20 ans, disons 24 ans, Mohamed Ali a été très bien jugé par les humains, par les juges terrestres. Il a été félicité. On a dit que c'était l'homme le plus beau et le plus fort. Mais à 43 ans, il y a le jugement de la nature qui est tombé sur lui. Il a eu la maladie de Parkinson. Et à quoi ça sert qu'on t'ait considéré comme le plomb le plus fort et le plus beau, si tu ne peux plus, tu deviens dépendant. À quoi? On oublie vite tout ça. Dans la vie de tous les jours, tu es maintenant sur fauteuil roulant. À quoi ça sert que ton passé ait été un passé extraordinaire? Donc tout ce qu'on cherche comme félicitations, reconnaissance, résultats sur terre, à quoi ça servira le jour où Dieu dira « Mais moi, je n'accepte pas tout ce que tu as fait. Tu l'as fait dans un esprit de célébrité personnelle, d'égoïsme. Ça ne compte pas. Ça ne viendra pas chez moi. » À quoi ça servira ce jour-là? Parce que ce jour-là, ça sera un jour éternel. C'est-à-dire que quand tu arrives ce jour-là avec l'assentiment de Dieu, les félicitations de Dieu, tes félicitations, ces félicitations-là dureront éternellement. Mais tout ce que tu aurais eu comme félicitations terrestres, reconnaissance, ça s'arrêtera ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut viser? Il faut viser l'approbation du Seigneur. Se mettre à la dernière place. Accepter de travailler dans l'ombre. Accepter de ne pas être connu, mais de faire l'œuvre de Dieu. accepter de ne pas être félicité. Les vrais prophètes ont toujours souffert d'être rejetés, d'être rejetés. On ne les a jamais acceptés parce qu'ils disaient la vérité. Si un chrétien n'apprend pas à vivre dans l'ombre, à travailler dans l'ombre, il ne fera jamais la volonté de Dieu. Parce que le monde refuse la vérité. Et quand on travaille dans la vérité, on est obligé d'accepter l'ombre. Vivre dans l'ombre, être rejeté, être isolé. Parce que les hommes n'aimeront pas la vérité. Le Seigneur Jésus a dit, si tout le monde dit du bien de toi, c'est que tu as un problème, tu n'es pas de Dieu. Alors chercher l'approbation, les félicitations, même si c'est dans le milieu chrétien, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous mettre à la dernière place, de faire les choses avec simplicité. Ça ne veut pas dire ne pas rechercher la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire ne pas s'attendre à ce que Dieu fasse des merveilles. Ça veut dire tout simplement, je fais ma part et je laisse Dieu faire sa part. Et je me contente de ce que Dieu fait. Je ne le force pas pour que je sois satisfait de ce qu'il fait, mais moi, je le sers par amour et pour la récompense céleste. Je le sers pour son honneur à lui et pour la récompense céleste. Et non pas parce que je vais avoir un résultat qui va me produire des félicitations, des satisfactions personnelles sur terre. C'est cela, bien-aimé. Les travailleurs dans l'ombre. Vous savez, qu'est-ce qui m'a amené vraiment à penser à ce sujet ? C'est les traducteurs de la Bible. Mais je vais y revenir. Vous savez, si on peut lire la Bible comme ça, en français, il y a des gens qui ont pris 30 ans, 25 ans pour travailler et produire une Bible. C'est-à-dire, pendant que toi, tu te construis tes maisons, tu fais des affaires, tu te maries, tu fais des choses, eux, ils vont en Israël, ils apprennent l'hébreu, ils vont en Grèce, ils apprennent le grec, ils vont dans des universités, 8 ans, 10 ans, apprendre les langues, ils vont dans les cultures juifs, culture grecque, ils apprennent pour pouvoir distinguer certaines nuances. Ils peuvent passer 40 ans, 8 secondes, je crois, il a passé, je crois, dans les 40 ans à faire tout ça. Et qui se souvient quand il y a une âme qui se convertit, que lui second a sa part dans ça? On se dit, j'ai parlé et les gens ont été touchés. Mais tu as parlé, tu as utilisé quoi? Tu as utilisé la Bible. J'ai dit, Seigneur, je dois faire hommage à tes serviteurs qu'on oublie. C'est ça pourquoi je prêche aujourd'hui. On oublie des héros, des gens dont Dieu s'est servi puissamment, mais sans publicité. Les traducteurs de la Bible. Pour traduire la Bible dans une langue, il faut aller vivre dans ce pays-là. Vivre parfois dans une tribu qui n'a même pas encore écrit sa langue. Vous comprenez, c'est-à-dire tu arrives dans une tribu, cette tribu ne fonctionne que de bouche à oreille. Ils n'ont jamais écrit leur langue. Donc tu dois commencer d'abord par un travail linguistique. Transformer leur langue parlée en écrit. C'est ce que Johann Schelter et son ami ont fait chez les Balangao en Philippines. Commencer d'abord, et elle n'est pas la seule, il y a plein de gens comme ça, des chrétiens, qui ont donné leur vie en quelque sorte. Parce que pour faire ce travail, ça a pris 20 ans. Pour une jeune fille de 23 ans, tu fais 20 ans dans cette tribu-là, tu en sors à 43 ans, 45 ans, non marié. Mais il fallait d'abord supporter, quitter les États-Unis, vivre dans des conditions où tu dois te laver dans une rivière, tu dois marcher à pied pendant 2 jours, parfois pour passer d'un village à l'autre. Tout ça parce que tu te dis, il faut que la parole de Dieu arrive à tout le monde. 20 ans! Les traducteurs de la Bible prennent 30 ans en train d'étudier, de traduire. Mais quelle joie le jour où les Balangao ont dit, Maintenant, Dieu parle notre langue. Ces gens-là, le jour où ils peuvent lire la parole dans leur langue, ils disent donc, Dieu nous aime parce qu'il parle notre langue. Et quand tu vis ça, ça vaut mieux que tous les mariages, toutes les maisons, tous les succès que tu peux avoir sur terre. Quand tu es parvenu à convaincre une tribu entière que Dieu les aime parce que Dieu parle leur langue, c'est toi qui as traduit. C'est plus que tout. Ça, c'est les travailleurs de l'ombre qui ne sont pas connus. Quand tu les cherches même sur YouTube, tu ne les vois pas. Mais ils ont changé de tribu entière. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas se consacrer dans quelque chose qui n'a pas de répercussions directes où tout le monde va voir et tout le monde va reconnaître. Je vais suivre l'ordre. J'ai quand même respecté la source de l'inspiration. L'inspiration vient du fait que j'ai pensé au traducteur de la Bible. Maintenant, je vais suivre mon ordre. Dans la Bible, bien-aimé, dès le départ, il y a des travailleurs dans l'ombre. Nous appelons Abraham le père de la foi. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Parce qu'Abraham a voulu sacrifier son fils. Abraham, lui, il est connu. Sacrifier son fils. C'est Dieu, bien-aimé. Entre parenthèses, ce n'est pas que les connus sont des mauvais serviteurs. Ah non. Mais si Dieu a décidé que toi tu sois connu, c'est la décision de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur que celui qui est inconnu. Et celui qui est inconnu, c'est la décision de Dieu. Dans tous les cas, nous aurons une récompense en fonction de notre fidélité au ciel. C'est la fidélité qui compte, ce n'est pas le fait d'être connu ou inconnu. C'est ça qu'il faut apprendre. Abraham est très connu. Mais bien-aimé, vous pensez que si Isaac avait pris ses deux jambes à son cou, comme on dit, pour fuir, est-ce qu'Abraham pouvait faire ce sacrifice-là? Mais qui parle d'Isaac? Personne. Mais Isaac, c'est lui qui s'est laissé donc mettre sur l'autel pour qu'on le tue. Un grand travail, un héros Isaac dans l'ombre. Ce qu'on appelle un type de Christ, quelqu'un qui se laisse crucifier, tuer pour la gloire de Dieu. La Bible a des travailleurs dans l'ombre. Mais comme l'esprit des humains est dirigé vers le succès, on s'intéresse que aux gens dont on parle beaucoup. Et c'est pourquoi il y a confusion, lutte dans les églises. Les gens luttent pour des places, pour des positions. Parce qu'ils n'ont pas saisi que ce qui est important, c'est de se mettre à la dernière place. Ce n'est pas d'être connu. Isaac a accepté la dernière place, celle d'être tué. Parce que Isaac étant tué, Abraham allait continuer à vivre. Mais Isaac a accepté la place de celui qui va être tué, oublié. Mais pas oublié de Dieu. Connu de Dieu. Vous savez, connaître quelqu'un et être connu de la personne, ce n'est pas la même chose. Qui ne connaît pas la reine d'Angleterre ici? Tous nous connaissons la reine d'Angleterre. Mais qui peut aller au château de Windsor frapper? Je connais la reine, je veux la voir. Donc tu n'auras même pas le temps de donner la prochaine phrase qu'on t'aurait mis dans un fourgon. Mais quand elle te connaît, quand tu viens frapper, elle dit, monsieur, oui, la reine vous connaît, elle nous a communiqué votre nom, vous pouvez entrer. Ben, nous tous, nous connaissons Dieu, mais Dieu ne connaît pas tout le monde. C'est écrit, hein? Dieu connaît ces gens en lui. Tu peux être très connu ici sur terre, Dieu ne te connaît pas. Et ce jour-là, il te dira, je ne te connais pas. C'est cela, bien-aimé. Isaac était connu de Dieu. Il s'est laissé donner. Il s'est laissé à l'autel pour qu'on le tue. Aujourd'hui, nous ne voulons pas accepter de telles positions. Rahab, on connaît Rahab, la prostituée de Jéricho, qui a accepté d'être une traître. Et combien de gens se calment, font marche arrière lorsqu'on les traite de traître? Beaucoup de personnes. Ta famille, puisque tu veux accepter Jésus, tu veux marcher avec Jésus, ta famille te traite de traître. Et tu as honte d'être considéré comme un traître pour la famille et tu fais marche arrière. Tu viens dans le compromis. Rahab a accepté d'être traître. Voilà. Mais elle devait servir le véritable Dieu. C'est ça qui compte, servir le véritable Dieu. C'est ça qui compte. Même si les amis, la famille te considèrent comme un traître, ce qui compte, c'est servir le véritable Dieu. C'est cela. Et on a vu la conséquence. C'est que grâce à Rahab, les enfants d'Israël ont su comment faire pour venir à Jéricho. Et toute la famille de Rahab a été sauvée. Il faut comprendre que par la suite, Rahab est devenu un instrument que Dieu a utilisé pour produire le Messie, parce que le Messie passe par là. Les travailleurs dans l'ombre. Il y a Ruth qui a accepté d'oublier son peuple pour suivre Naomi. Travailleurs dans l'ombre. On ne parle pas beaucoup d'eux, mais le Messie est passé aussi par là. Être de la lignée du Messie. Mais parce que ce sont des gens qui ont été connus de Dieu, approuvés de Dieu, mais qui étaient dans l'ombre d'autres personnes. Nous devons servir le Seigneur, même si on ne doit pas être connu, on ne doit pas chercher à être connu, on doit servir le Seigneur. Vous vous souvenez d'Élisée, hein? Tout le monde se souvient d'Élisée. Élisée a fait... Quel miracle Élisée n'a pas fait? On cherchait un morceau, le morceau en fer d'une hache tombée dans l'eau. Vous savez, le fer est lourd. Donc, dès qu'il tombe, il plonge, il va bien au fond dans l'eau. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Il prend un morceau de bois, il lance dans l'eau et le fer revient à la surface et on récupère le fer. Quel miracle! Quel miracle Élisée n'a pas fait? Il a prié pour une dame, l'huile qui était... tous les vases ont été remplis d'huile. La dame a amené plusieurs casseroles. Il a prié, puis les casseroles se remplissaient d'huile. Élisée a ressuscité des morts. Élisée est très connu. Mais le miracle le plus célèbre d'Élisée, c'est le miracle de la guérison de Naaman, le lépreux, le général syrien. C'était un lépreux. Vous savez, l'un des miracles qui pouvait témoigner que la personne qui accomplit c'est le Messie, c'est guérir de la lèpre. C'est pourquoi quand Jésus guérissait de la lèpre, c'était aussi pour montrer que c'était lui le Messie qu'on attendait. Et c'est le miracle, Élisée n'a guéri qu'un seul lépreux. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre. Mais comment c'est arrivé que Élisée guérisse ce lépreux-là? C'est parce que la domestique d'Élisée, une jeune fille juive, on ne cite même pas son nom. on ne connaît même pas son nom. Elle a dit à la femme de Naaman, le général syrien, elle a dit, mais il y a un prophète en Israël. Si le patron pouvait partir là-bas, le prophète le guérirait. Élisée ne connaissait pas Naaman. Naaman ne connaissait pas Élisée. Mais il y a eu cette jeune fille dont on ne cite pas le nom qui a fait le lien. Et le miracle a été accompli, le Seigneur a été glorifié et Élisée a été rendu célèbre. Les héros dans l'ombre, cette jeune fille-là. Il y a des héros dont on connaît, dans l'ombre dont on connaît les noms, comme Isaac, mais il y a des héros dans l'ombre dont on ne connaît pas les noms, comme cette jeune fille. C'est elle qui a fait le lien, une petite fille, entre Élisée et Naaman. Et ça a glorifié le nom de Dieu. Élisée a été rendue célèbre. Mais au ciel, cette jeune fille va bénéficier de la récompense liée à l'action qu'Élisée avait faite. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de différence. Ceux qui gardent les bagages et ceux qui vont en guerre ont la même récompense. C'est ce qui se passait dans les guerres juives. Ceux qui gardaient les bagages, ils gardaient les valises, les affaires, avaient la même récompense que ceux qui faisaient la guerre. Parce qu'ils participent au même effort. Ils participent à la même œuvre. Mais nous, nous voulons toujours être de ceux-là qui sont mis en avant. Pourquoi ? À Dieu seul la gloire. Et il y a des héros dans l'ombre qui ont fait du travail beaucoup plus efficace que les héros devant les projecteurs. Cette fille a dit à sa maîtresse, « Oh, en Israël, on a un véritable prophète. Il faut que le maître aille là-bas. » Mais quelqu'un pourrait dire, « Mais c'est juste un renseignement. » Mais non, mais bien aimé, vous imaginez si le maître va là-bas et il n'est pas guéri, mais on peut tuer la fille, non? On était à quelle époque? Cette fille-là a fait un acte puissant de foi pour être sûre que Dieu va guérir son maître par Élisée. C'est cette fille-là qui commence l'acte de foi. La preuve, quand Naaman le lépreux, le général syrien, arrive en Israël, qu'est-ce qui se passe? Le roi, il tremble, il dit, mais comment on va faire pour le guérir? Nous, on ne sait pas guérir, mais il vient. C'est comme si tu es le petit pays de la Belgique, tu vois le président américain arriver, on m'a dit qu'ici, il y avait un prophète pour me guérir, mais le président tremble, il dit, mais quoi? Mais s'il ne guérit pas, on aurait fait déplacer le président américain, il ne guérit pas, mais on va avoir des problèmes. Le roi a tremblé et Élisée a appris que le roi était en train de pleurer parce que le général syrien est arrivé, il faut le guérir. Élisée a dit, laisse-le venir vers moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mais tout ça commence par l'acte de foi de la fille. Elle savait qu'il y avait un prophète en Israël. C'est ça, bien-aimé. Tout ça commence par là. Par une petite invitation que tu peux donner à quelqu'un, dire, viens écouter la parole de Dieu. Tu sauras qu'il y a un Dieu qui existe. Ça commence par toi. La foi a commencé par la jeune fille. Ça n'a pas commencé par Élisée. C'est la jeune fille qui introduit la foi. Et Dieu est obligé d'honorer la foi. Il te sera donné selon ta foi. L'homme de Dieu, vous savez, dans la Bible, il y a un souverain sacrificateur qui s'appelait Élie. Souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des sacrificateurs. C'est en quelque sorte même le chef de tout Israël, quoi, en quelque sorte. Eh bien, le chef spirituel de tout Israël. Maintenant, qui va venir lui faire des reproches? Parce que c'est lui le chef spirituel, c'est à lui de faire les reproches à tout le monde. Mais on nous dit dans la parole qu'un inconnu est venu le voir pour lui dire ton comportement est mauvais. Un inconnu est venu le voir pour lui dire ton comportement est mauvais. C'est pourquoi Dieu t'a jugé. Tes fils et toi mourront. Un inconnu. On ne le connaît pas. Il y a des héros dans l'ombre. Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Qui va venir le corriger? Donc tu viens le corriger, il peut dire au garde, allez, prenez-le, amenez-le en prison. On a vu Jérémie combien de fois il a été tapé, frappé, parce que les sacrificateurs ont dit, allez, frappez-le, amenez-le en prison, quand Jérémie disait la vérité. Mais on nous dit qu'il y a un inconnu, un homme de Dieu inconnu, qui est venu voir Élie pour lui dire, ton comportement est mauvais. On ne cite pas son nom. Il y a des héros dans l'ombre. Le jeune prophète de 1 Roi 13. Dieu lui dit, va voir. On ne nous donne pas son nom. Il y a beaucoup qui diront, mais il est mort. Oui, mais il est mort après avoir fait un exploit. Il est venu. On lui a dit, va voir le roi. Dis au roi que son comportement est mauvais. Qui peut avoir de tels courages? Surtout un inconnu. Quelqu'un qui n'est pas connu. Qui t'envoie? Tu viens là, un jeune. On ne sait pas d'où tu viens. Tu viens juste te dire, pendant une grande fête, le roi est avec les invités. Tu te lèves, tu dis, roi, ton comportement est mauvais, il y aura des jugements sur toi. Quel exploit! Quel exploit! Si tu étais encore connu, un vieux, rien que le garde, quand tu te vois, il te dit, ah, mais ça, c'est le vieux, un tel, c'est le prophète, le grand prophète. On te laisse passer. Tu as la même mesure. Mais là, tu n'es pas connu, un jeune, tu viens troubler la fête. Allez, roi, tu es dans le péché. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a levé la main, elle a dit, arrêtez-le. Ah, mais oui, mais quand c'est Dieu qui envoie quelqu'un, même s'il est inconnu, il est tout puissant. Hein. Quand il dit arrêtez-le, c'est son bras qui se bloque. C'est sa main qui se bloque. Ça devient sec, bloqué. Et il demande pardon au jeune homme. Il dit, mais prie ton Dieu qu'il me libère. Le jeune homme dit, d'accord, je te libère, mais sache que les jugements sont tombés sur toi. Un inconnu. Combien de chrétiens aujourd'hui acceptent d'être inconnus? Souvent, quand je voyage, les gens me disent, mais pasteur, il n'y aura pas beaucoup de monde, hein? Il y aura deux ou trois. Mais est-ce que je cherche du monde? Nous cherchons à servir Dieu. Il y a des gens qui disent, mais il n'y aura pas beaucoup de monde. Hein? Il y a un tel qui viendra, un tel ne viendra pas. Et puis bon, on sera avec une voix triste, on sera peut-être trois. Et alors, trois avec la présence de Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Qu'est-ce qui est important d'être mille sans Dieu ou trois avec Dieu? C'est Dieu qui est le plus important. Et Dieu fait des grandes choses, même si vous êtes peu nombreux, mais vous ne le voyez pas. Avant que je prêche, un frère est venu dans le bureau pour m'expliquer une vision qu'il a reçue le vendredi. Que pendant qu'on était en train de chanter, il y avait une porte satanique vers la scène à chanter le mercredi le 21 juin. Et les serviteurs de Satan faisaient entrer les âmes qu'ils pêchaient ce soir-là. Et le monsieur, le portier qui était un costaud, il était en colère parce que nos prières ont empêché qu'il fasse le bon compte ce jour-là. Mais nous, pendant qu'on chantait, on louait Dieu, on ne voyait pas tout ça. Pendant que vous êtes deux, trois en train de prier, vous ne voyez pas ce que Dieu fait. Je vous ai raconté l'histoire de ces deux personnes qui, en mission en Asie, qui s'étaient perdues dans la forêt. Et ils ont décidé de passer la nuit dans la forêt, le temps d'attendre le jour pour continuer. Et un jour après qu'ils soient sauvés, et là, pendant qu'ils étaient en forêt, les frères qui étaient restés dans le camp, ils étaient à 14, en train de prier pour eux, que Dieu les protège, que Dieu soit avec eux. Et quand ils ont été sauvés de cet événement, un jour, un d'entre eux rencontre une personne en ville qui lui dit, « Mais moi, je t'avais vu, vous étiez à deux ce jour-là, il y a des bandits qui ont voulu venir vous dépouiller. » Mais vous étiez entouré de 14 soldats. C'était qui les 14 soldats là? C'était les intercesseurs qui priaient dans le camp. Pendant qu'eux, ils priaient dans le camp, le Seigneur transformait des anges en soldats pour entourer les bien-aimés. Mais est-ce qu'eux, ils pouvaient savoir ça? Non. Il faut accepter de travailler dans l'ombre et comprendre qu'on est efficace malgré tout. Même si on est dans l'ombre. Dans l'ombre, ce n'est pas pour la défaite, c'est pour la victoire. Mais Dieu a décidé de ne pas nous mettre sous le feu des projecteurs. Il a choisi des gens pour ça et d'autres feront le même boulot, même parfois plus efficace, mais dans l'ombre. Et la plus belle place, c'est quoi? C'est dans l'ombre, je vous le dis. Ce n'est pas moi qui le dis et c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, les gens qui sont récompensés ici ou on les applaudit ici, ben ils ont déjà leur récompense. Mais ceux qui sont rejetés ici, ils auront leur récompense au ciel. Après, on peut toujours nous applaudir malgré nous, on peut toujours nous féliciter malgré nous, mais nous, on doit avoir une disposition de cœur où on ne cherche pas ça, on cherche Dieu. C'est très important, bien-aimé. Il y a plein de gens comme ça dans l'ombre. Je vais passer au Nouveau Testament parce qu'il y en a beaucoup déjà dans l'Ancien Testament. Il y a notre frère Étienne. L'ombre, c'est aussi ça. Tu entres dans un succès foudroyant, fulgurant, et puis le lendemain, tu meurs. Étienne est entré dans un succès foudroyant dans Actes des Apôtres, au chapitre 6-7. Étienne faisait des miracles extraordinaires, à tel point qu'il convertissait même les prêtres. Mais quelques jours après, on le tue. Héros dans l'ombre. Mais qu'est-ce que les gens vont dire en ce moment-là? Mais quelle perte! Étienne n'avait qu'à être poli vis-à-vis des pharisiens. Vous savez, les chrétiens sont mauvais, hein? Beaucoup, hein? Beaucoup sont traîtres. C'est-à-dire que quand tu fais les œuvres, ils te soutiennent. Mais quand ça tourne mal, il n'avait qu'à être réservé aussi. Il a trop parlé, il a exagéré. Oui, donc Étienne a osé dire aux pharisiens, aux prêtres sacrificateurs qu'ils étaient dans l'erreur, que c'est Jésus qui était le Messie. Il leur a dit ça clairement. Et c'est ça qui a entraîné la lapidation et la mort. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais quelle perte! Parce qu'un homme qui a la puissance de convertir les prêtres dans leur maison, qui a la puissance de faire des miracles comme Étienne, pourquoi mourir tôt? Les gens vont dire, mais pourquoi mourir tôt? Mais Dieu sait tout. Vous savez, nous devons travailler pour Dieu, mais nous devons travailler aussi avec Dieu. Comprendre que nous faisons partie d'un tout. D'un tout. C'est toute une armée. On n'est pas seul. Et dans l'armée, il y a un général qui a des objectifs pour la victoire générale. Il ne regarde pas que toi. Il y a la victoire générale. Parce que dans la victoire générale, toi aussi, tu es victorieux. Par contre, dans la victoire personnelle, ce n'est pas forcément la victoire générale. Parfois, tu peux avoir l'impression qu'un chrétien a perdu personnellement, mais c'est pour la victoire générale. Et lui sera récompensé pour cette victoire générale. Alors que tu peux gagner individuellement, mais tu perds la victoire générale. Richard Rembrandt nous a donné cet exemple. Il a eu un débat avec un juif. Il a battu le juif dans le débat, parce que lui-même c'était un juif. Il a convaincu le juif qu'il était dans l'erreur en refusant Jésus comme le Messie. Il a convaincu le juif de contradiction. Mais il dit, mais ça n'a fait que renforcer ce juif-là dans son orgueil. Ce n'est pas parce que je l'ai vaincu humainement que je l'ai gagné à Christ. Donc tu peux avoir une victoire comme ça humaine, mais en réalité, spirituellement, tu n'as pas de victoire. Or, tu peux parler avec quelqu'un, la personne semble avoir plus le dessus sur toi, mais quand tu pars, le peu de paroles que tu as dites, on continue à faire leur travail. C'est pourquoi on ne doit pas chercher la satisfaction personnelle. On ne doit pas chercher à dire que ah, ben, j'ai fait, j'ai parlé, j'ai gagné. Non, on doit juste se laisser utiliser par le Seigneur. Les chrétiens de Bérée, on se souvient des chrétiens de Bérée. Lorsque, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, Paul prêchait, ces gens-là vérifiés dans la Bible. Et ils sont devenus un exemple pour tous les chrétiens qui sont nous tous. Les vrais chrétiens ont pris l'exemple sur les chrétiens de Bérée. Quel que soit le prédicateur, quel que soit l'apôtre qui prêche, nous lisons en même temps dans la Bible pour voir si c'est la même chose. Mais on ne connaît pas leur nom. Qui connaît un seul chrétien de Bérée? On ne connaît pas leur nom. Mais ils sont restés des puissants travailleurs dans l'ombre. Peut-être qu'ils ont été aussi des puissants travailleurs pour Paul de réaliser qu'il n'était pas le seul à être attaché à la Bible. Il n'était pas le seul à être attaché à Dieu. Il y avait des gens aussi qui étaient attachés à Dieu. Que chacun devait rester être humble. Les gens comme Apollos, on connaît quelques versets sur Apollos où Paul dit, j'ai demandé à Apollos de venir chez vous. C'est tout. Il y a un autre passage où Apollos se fait aider par Priscilla et Aquilas. Mais c'est des gens qui ont travaillé sérieusement pour que Paul dise, j'ai demandé à Apollos de venir vous enseigner. Donc ça veut dire que Paul était sûr de ce qu'Apollos faisait. Il y a des gens comme l'apôtre Jean. On ne parle pas beaucoup de l'apôtre Jean dans la Bible. C'est Pierre. Mais Jean, c'est quelqu'un qui a connu vraiment le Seigneur Jésus. Et on le voit dans ses écrits. On voit qu'il ne parlait pas trop, mais il apprenait à connaître le Maître. Un homme simple, effacé. Mais maintenant, quand il écrit, les évangiles de Jean et ses épîtres, ça peut être un sujet de méditation à l'infini. Au fait, Jean n'explique pas. Jean présente le Fils. L'apôtre Paul nous explique des choses. Dieu lui a donné ce don-là. Jean n'explique pas. Jean est en train de donner ce qu'il a reçu. C'est un point, c'est tout. Mais c'est profond parce qu'il est comme devenu comme une seule chair avec le Seigneur. Je me souviens d'un frère qui est mort et qui est parti au ciel. Dieu lui a dit, va lire le livre des Jean. Tu vas comprendre mon amour là-bas. Jean, c'est mon bien-aimé. Jean passait son temps à fusionner avec le Seigneur. Il ne discutait pas, il ne criait pas, mais il fusionnait. Et le jour où il écrit, il sort des phrases du genre, car Dieu est amour. Comme, il y a des phrases de Jean qui sont un mystère pour moi. Donc, il faut beaucoup de temps, beaucoup de prières pour pouvoir finalement comprendre ce que Jean a compris. Mais lui, il sort ça en une phrase. Il a passé son temps à fusionner avec le Maître. Il n'a pas cherché les places de devant, parler, prêcher. Et on dit de Jean que quand il est devenu très vieux, il n'arrivait même plus à marcher. On le portait par les frères de groupe de prière en groupe de prière. Et il prêchait la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Les gens disaient, mais Jean, tu ne prêches que la même chose. Il disait, c'est ça le plus important. Parce qu'il a connu les choses en profondeur. Il n'avait pas beaucoup de choses à dire ce qu'il a connu tout simplement. Beaucoup de gens passent du temps. Je ne suis pas contre à lire plusieurs versions de la Bible, à se documenter, mais ils ne cherchent pas à connaître le Seigneur lui-même. Ils cherchent à augmenter leur connaissance, mais ils ne cherchent pas le Seigneur. Jean, lui, il a cherché le Seigneur. Amen. Un héros dans l'ombre, bien-aimé dans les temps modernes, parce qu'on n'a plus le temps, il y a les traducteurs de la Bible. Dans nos temps, les traducteurs de la Bible sont des héros. C'est eux qui nous... C'est grâce à eux que nous sommes sauvés, parce que Dieu parle notre langue. Comment Dieu parle notre langue? Il s'est servi de ces traducteurs qui ont donné 40 ans, 30 ans de leur vie. Aller dans des cultures. Il y en a qui ont amené des enfants et des femmes, leurs femmes. Je connais un qui travaillait dans la région de Tibet. Il a commencé par perdre un enfant. Un deuxième, et puis sa femme. Et il a pris une barque, il a pris la direction opposée, il a dit, je rentre. Mais sur le chemin, il rencontre quelqu'un qui lui dit, non, non, tu fais demi-tour. Tu rentres dans la mission du Seigneur. Il est rentré dans la mission du Seigneur, mais vous ne le connaissez pas. Nous ne le connaissons pas. Il y a plein de gens comme ça, qui ont donné leur vie au Tibet, au Bhoutan, il y a des pays même dont on ne connaît pas les noms. Le Bhoutan, le Népal, dans les tribus en Amazonie. Des gens qui sont partis vivre dans ces conditions-là parce qu'il fallait que la parole de Dieu atteigne l'humanité entière. Des travailleurs dans l'ombre qu'on ne retrouve pas sur Facebook. Leur seule publicité, c'est au ciel. Où Dieu parle d'eux à certains anges. Regardez, comme Dieu parlait de Job, Regardez mon serviteur. Celui-là, Jésus l'a vraiment touché. Ça se parle là-bas au ciel quand on parle de ces gens-là. Comme la Bible dit, même notre monde ne les mérite pas. Notre monde ne les mérite pas, ces gens-là. Ce sont des gens du ciel que Dieu a envoyés sur la terre pour faire sa volonté. Les missionnaires de toutes les époques, au 9e siècle, il y a un monsieur qui a été saisi par le Saint-Esprit, qui a commencé à prêcher la vérité. Maintenant, pour que le catholicisme le finisse, ils l'ont appelé Paulinien. En fait, parce qu'il avait... Vous savez, comme la Bible était interdite, lui, il est arrivé par miracle à voir les écrits de Paul. Et rien qu'avec les écrits de Paul, il a contredit le catholicisme. Il a dit, c'est faux tout ce que vous faites, les images. Et on les a arrêtés pour aller les tuer. Pendant qu'on allait les tuer, ils ont commencé à chanter « Gloire à l'agneau, gloire à Jésus ». Et le capitaine qui était le chef des gens qui venaient le tuer, il a dit aux autres, « À partir d'aujourd'hui, moi aussi, je deviens chrétien. Donc vous allez commencer d'abord par me tuer, moi, le premier. » Les héros dans l'ombre. Donc ces gens-là qui chantaient la gloire de Dieu, ils ne sont pas connus, mais ils sont connus du ciel. Et on a tué le capitaine en premier parce qu'il était devenu chrétien. Tu deviens chrétien pour mourir. Amen. Aujourd'hui, beaucoup deviennent chrétiens pour être protégés. C'est bien, même si c'est le début, c'est déjà pas mal. Mais il faut en arriver à être chrétien véritable pour mourir pour le Seigneur, par amour. Les Vaudois. En France, on a des gens qu'on a appelés les Vaudois au Moyen-Âge. La Bible était interdite. Eux, des familles entières, ils continuaient à lire la Bible. Ils étaient rejetés. Et ils faisaient le commerce partout en France. Dans leur commerce, ils amenaient des Bibles, ils distribuaient. Ils habitaient la région d'Albi, là-bas, dans le sud. Et un jour, on a envoyé toute une armée. Le catholicisme a envoyé toute une armée pour les tuer. D'où la fameuse phrase, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » C'est ce qu'un cardinal, un évêque de l'époque avait dit. Puisque quand on a envoyé les soldats ont dit, mais dans cette ville-là, il y a 50% des catholiques, 50% de ces gens-là, des vaudois, les albigeois. Comment on va les distinguer? Le prêtre catholique a dit, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ces gens-là ont été éliminés. Est-ce que vous connaissez les dragonnades? C'est toutes ces guerres de... Les dragons, c'était les soldats de Louis XIV qui ont éliminé les chrétiens de l'époque, les véritables chrétiens, ils les pourchassaient dans les maisons. Marie Durand, qui a fait 40 ans dans la tour de Constance, vous vous imaginez une mère qui va faire 40 ans en prison. Tous ces gens-là, à cause de l'évangile, ils ne sont pas connus, cités. Les chrétiens s'intéressent aux prédicateurs qui font succès sur YouTube. Au lieu de s'intéresser aux vrais héros qui donnent la vie, leur vie. Ces gens-là ont subi les dragonnades de Louis XIV. Mais c'est grâce à eux qu'il y a eu la Révolution française, parce que les gens ont vu les protestants là, enchaînés, on les faisait marcher toute la France jusqu'au port de Marseille pour les amener en esclavage ou en prison ailleurs. Les gens ont vu tous ces chrétiens-là rester fidèles à leur Dieu, tenir face à la persécution du roi. Ils ont compris qu'eux aussi pouvaient résister au roi. Mais on ne les cite pas dans les révolutions françaises pour dire qu'ils ont joué un rôle. Mais Dieu les connaît. C'est ça le plus important. Les martyrs dans tous les pays où les chrétiens sont persécutés. En Chine, Alan Yuan a fait 22 ans de prison. Et quand il est entré en prison, il avait une femme et 7 enfants. Quand il sort de prison, Les enfants sont des gens grands, mariés. C'est 22 ans de prison, Alan Yohan. Et quand il était en prison, c'est Dieu qui nourrissait sa famille. La maman recevait parfois une lettre avec de l'argent qu'on lui envoyait. Elle ne servait pas d'où. Dieu ne laisse pas les enfants de telle personne. Dieu ne nous abandonnera pas même si nous sommes dans l'ombre, bien-aimés. Dieu est avec nous. C'est ça qui est le plus important. Dieu est pour nous un abri, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. L'Éternel est mon berger. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, il est là encore avec moi. C'est ça qui... Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la présence de Dieu en servant Dieu. Ils cherchent Dieu. Dieu est la plus grande richesse. Ils ont compris que les choses de la terre passeront. Même la célébrité, ça passera. Mais c'est Dieu qui est important. Ils cherchent Dieu. Et Dieu les amène dans l'ombre pour qu'ils se rencontrent. Aujourd'hui, on ne veut plus de ça. On veut de quelque chose qui rapporte, qui ait des résultats. Nous, on croit tellement en Dieu qu'on sait que le résultat sera là. Alors, on cherche Dieu, au lieu de passer notre temps à chercher le résultat. On cherche la source des résultats. Bien-aimés, il y a des gens qu'on appelle des intercesseurs, des gens qui prient. Moi, je viens prêcher. Peut-être eux, ils ont prié pour moi, plus que moi-même, j'ai prié pour prêcher. On ne les connaît pas. Mais ils se sont dit, on a appris que le pasteur est malade et fatigué. Ben, on va prier pour lui, pour qu'il tienne encore. Mais on ne les connaît pas. Nous, on vient, on est sous le feu de projecteur. Mais eux, ils ne sont pas connus, mais ils sont connus de Dieu. Parce qu'ils participent à la même œuvre. Ils ne font pas de publicité, mais ils prient. Et Dieu agit à cause de leur prière. C'est important, bien-aimé, de comprendre. Les travailleurs de l'ombre, c'est qui? C'est des gens que Dieu a laissés souffrir pour que ce soit une leçon pour les autres. Une leçon qui fortifie d'autres. Donc Dieu te fait souffrir toi, mais le but de Dieu, c'est que beaucoup d'autres, par ta traversée du désert, grandissent. Et quand tu as compris ça, tu es content, tu dis, bon, j'accepte. Je suis un travailleur dans l'ombre. Comprenons les choses, bien-aimés. Dieu veut travailler avec chacun de nous. Et l'ombre, ce n'est pas une défaite. Au contraire, c'est la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de filmer là. Mais quand tu filmes toi-même, on ne peut pas te voir parce que c'est toi qui filmes. C'est les travailleurs dans l'ombre. Il y a des gens qui nettoient la salle, qui vont les voir. Parce que quand on vient, il faut que le travail soit fini déjà. Les gens qui font la cuisine à côté, ce sont des bénis de l'Éternel. C'est ça qui est important, bien-aimé. Servir Dieu, tout simplement, parce que son Fils a donné sa vie pour nous. C'est ce que notre frère Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 14 à 17, qu'on va lire.
Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Amen. L'amour de Christ nous presse. C'est l'amour de Dieu. Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces sacrifices de ces gens dans l'ombre? C'est l'amour de Christ. Vous me direz, mais tous ceux qui font ça n'ont pas forcément cet amour-là, d'accord. Mais cherchons à grandir dans cet amour davantage. Vous savez, il y a des vérités. Tu lis ça dans la Bible, hein? Mais ça ne te fait rien. Parce que quand tu entends que dans le psaume 73, c'est le psaume 73 qui a converti Watchman Nee, alors qu'il était déjà serviteur de Dieu. Il était déjà évangéliste. Mais quand il a lu le psaume 73, il a compris que lui ne pouvait pas parler comme le monsieur qui a écrit le psaume 73. Le monsieur qui a écrit le psaume 73 disait quoi à la fin du passage? On va lire la fin du psaume 73. La fin, donc, c'est le verset, le verset 25 et 26.
Verset 25 et 26. Ma chair et mon cœur...
Non, quel autre ai-je au ciel? Donc, c'est 24 pour toi, alors.
Donc, 24. Tu me diras par ton conseil, puis tu me recevras, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage.
Amen. Le jour où cet évangéliste, ce serviteur de Dieu déjà reconnu de son époque, lit ce passage-là, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il a dit, mais moi, je ne peux pas parler comme ça. Parce qu'il était conscient que sa fiancée était le sommet de son intérêt. Et donc, quand il a lu ça, il a dit, mais moi, je suis incapable de parler comme celui qui a écrit ça. Et il a dit au Seigneur, je veux être capable de parler comme celui-là. On doit pouvoir prier, dire, Seigneur, je veux comprendre comme Paul quand il dit, l'amour de Christ nous presse, mais moi, ton amour ne me presse pas. Il faut être honnête. Je veux être capable, je veux saisir les choses comme Paul a saisi. Il ne faut pas juste dire, ah bon, écouter et passer comme ça. Non, il faut prier. Il faut dire, mais j'aimerais bien être pressé comme Paul est pressé. Parce que moi, j'ai l'impression que je travaille pour toi, parce qu'il faut travailler pour toi, parce qu'officiellement, je suis chrétien. Mais moi, j'aimerais aussi être pressé comme Paul. Dire ça au Seigneur. Que ton amour me presse aussi, que je comprenne l'œuvre de la croix. Il faut prier, dire ça au Seigneur. Bien-aimé, il y a des gens qui évangélisent dans les rues sans que ça passe sur YouTube. Les gens ne les connaissent pas. Voilà. Des travailleurs dans l'ombre, mais Dieu les connaît. C'est ça le plus important. Et je vais prendre la vie chrétienne de tous les jours. Il y a des femmes, des maris, des enfants chrétiens qui sont persécutés dans leur maison parce qu'ils croient en Dieu. Une femme chaque jour qui est rejetée, martyrisée parce qu'elle croit en Dieu, mais elle reste fidèle à Dieu. Ce sont des travailleurs de l'ombre. Grâce à eux, Dieu envoie des libérateurs. Des maris qui supportent parfois l'infidélité, mais qui veulent rester chrétiens, qui ne divorcent pas, jusqu'à ce que Dieu fasse introduire la délivrance dans leur famille. Des enfants qui sont chassés à 16 ans, à 15 ans, sortent de la maison, je ne veux pas de chrétiens ici. On a regardé le film de Dini, une fille chassée de chez elle, à 16 ans, en Indonésie, un pays musulman. Mais à cause de Jésus, elle est partie. Elle ne pouvait pas faire. Elle ne pouvait pas dire, bon, je reste, je ne cesse d'être chrétien. L'amour du Seigneur l'appréciait. Quand on sait ce que Jésus a fait pour toi, quand on sait, quand on est pressé par cet amour, on n'est plus la même personne. Dini a préféré s'en aller. aller vivre comme un SDF, mais avec Jésus à ses côtés, plutôt que rester dans la maison. Les travailleurs dans l'ombre. Toutes ces églises et ces chrétiens persécutés dans le monde entier. En Éthiopie, l'armée est entrée dans une église. Ils ont pris un enfant au hasard comme ça. Oh, c'était l'enfant du pasteur. Ils ont balancé du haut du troisième. Le culte se faisait au troisième ou au deuxième étage. Ils l'ont balancé du haut du deuxième étage. L'enfant est mort. La maman est descendue, elle a récupéré son fils. Elle a remis son fils dans ses bras. Le culte a continué. Le culte au nom de l'Éternel a continué. Mais qui connaît cette femme-là? Mais Dieu la connaît. Un jour, les récompenses éternelles tomberont. Et ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais il y aura aussi des cris de joie. Et les gens diront, mais Seigneur, pourquoi tu me fais cet honneur? Le Seigneur te dira, viens, regarde ce que tu avais fait pour moi. Regarde comment on s'est moqué de toi. Dans ta famille, comme quoi tu es pauvre. Parce que tu avais choisi mon nom. Aujourd'hui, tu es récompensé. Et éternellement, ça ne changera plus. Tu es un élevé dans mon armée. Voilà. Tous ces gens-là, bien-aimés, qui, dans l'obscurité, subissent des persécutions, des critiques pour le nom de Jésus-Christ, Dieu va les récompenser. Nous faisons tout ceci pourquoi ? Nous devons faire tout cela par amour. Un, par amour pour le Seigneur, comme on a lu dans 2 Corinthiens 5. Et parce qu'il y a une récompense céleste qui nous attend. Pas pour la récompense terrestre. Et aussi, parce que même parfois, quand nous-mêmes, nous sommes faibles, il y a le plus grand travailleur dans l'ombre qui entre en scène. Il s'appelle qui ? Le Saint-Esprit. Lui qui n'a pas pris de corps humain, mais il travaille dans tous les chrétiens pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a eu l'incident, le 21 juin, le mercredi, le soleil nous accablait. On était fatigués et le groupe qui s'était mis à côté de nous, le groupe de techno, avait mis les haut-parleurs à fond. Les oreilles étaient fatiguées, le corps fatigué par le soleil et leur bruit à fond. Mais c'était l'heure de la prière, 16 heures. Moi qui depuis un moment, je ne dirige plus la prière d'intercession. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a saisi, j'ai dit donnez-moi le micro. On m'a donné le micro. J'ai commencé à prier et la prière a surplombé la musique. La prière s'est répandue dans toute l'étendue à côté de l'esplanade du Théâtre des Arts. Les gens qui étaient dans les voitures entendaient qu'on priait qu'ils se convertissent. Ils entendaient que les œuvres des ténèbres soient détruites au nom de Jésus. Ça, c'est qui fait ça? C'est l'Esprit Saint. Parce que je peux vous dire que j'ai traîné les jambes, j'étais fatigué. Mais quand le Seigneur t'a déjà pris, t'a déjà saisi, tu es à lui. Même quand toi, tu es fatigué, lui, il va agir. Par amour pour le Seigneur, pour la récompense céleste, et mû par le Saint-Esprit, on va travailler. Même dans l'ombre, même lorsqu'il faut se déplacer, prêcher à deux personnes, on va y aller. Parce qu'une seule personne touchée par le Seigneur produit de la joie au ciel. Vous savez l'immensité du ciel. Produire la joie dans cette immensité-là. Et une seule personne qui est touchée peut faire des ravages dans le monde de ténèbres. Que 1000 personnes qui applaudissent qui ne sont pas vraiment touchées. Je vais clôturer, comme d'habitude, par qui ? Par mon Seigneur Jésus, le plus grand travailleur de l'ombre. Oui, oui, oui. On le connaît pourquoi ? À cause de sa mort à la croix. Ce n'est pas à cause de ses miracles. Quand il faisait ses miracles, il n'était pas dans l'ombre. Il y avait le feu de projecteur sur lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de Jésus? Ce ne sont pas ces miracles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de Jésus? C'est vous et moi. Vous et moi, quand nous parlons de lui, c'est comme ça qu'on sait qu'on parle de lui. Mais vous et moi, nous parlons de lui. Pourquoi? À cause de sa mort à la croix. Quand il est mort à la croix, c'est là qu'il a obtenu notre salut. Mais quand il mourait à la croix, il était considéré comme qui? Puni de Dieu. Comme ayant échoué. Ayant échoué. On se moquait de lui. Délivre-toi toi-même. Mais c'est là, il est écrit dans Ésaïe 53, c'est le travail de son âme. Il faisait son travail. Pendant ce temps-là, nous, on était sauvés. Nous, on était sauvés pendant que Jésus-Christ était crucifié à la croix. Le travail se faisait en ce moment-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on parle toujours de lui, parce que nous sommes là pour attester de cette œuvre à la croix. Et je veux dire la chose la plus difficile à comprendre parfois, c'est la résurrection de Jésus. Comment quelqu'un dont on s'est moqué pendant qu'il était crucifié, il ressuscite. Je m'attendais à ce qu'il passe par tous les gens qui se sont moqués de lui pour dire, vous voyez, maintenant je suis ressuscité. Hein? Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Moi, je suis toujours étonné de dire, mais quelle humilité! Combien de fois nous souhaitons des victoires pour montrer aux gens que on était des vrais chrétiens. Il y a des gens qui disent qu'on est des vrais chrétiens, des faux pasteurs. Et combien de fois on souhaite, Seigneur, que le Seigneur agisse comme ça, les gens verront. Ah non! Jésus est ressuscité, il n'est apparu à aucun de ceux qui l'ont critiqué. À aucun, hein? C'est étonnant. Pour leur fermer la bouche, pour les gifler ou faire quelque chose de ce genre-là. Non! Il est ressuscité. Il est apparu à qui? À ses amis, à lui. Pour leur dire, calmez-vous, je suis ressuscité. Mais maintenant, je vais habiter en vous par l'Esprit Saint. C'est vous qui allez leur dire que je suis ressuscité. Double torture. Tu as en face de toi quelqu'un qui te dit, Jésus est ressuscité. Mais où il est? Il est en moi. Donc, tu as beau parler, dis, mais non, mais il est ressuscité. Mais où? Mais il est là. Voilà. Donc les gens disent, mais ils souffrent parce qu'ils comprennent qu'il y a une puissance qui se dégage à toi qui dit que Jésus est ressuscité. Ils comprennent bien qu'il y a une réalité, mais tu ne peux pas leur montrer Jésus. Travailleur dans l'ombre, il a caché sa résurrection afin qu'il n'y ait pas une logique de vengeance. Mais une logique d'amour toujours jusqu'au bout. Afin que l'invisibilité de Dieu soit consacrée toujours. Parce que Dieu est invisible. Si Jésus, dans sa résurrection, commençait à circuler partout pour dire « Je suis ressuscité », chez les païens, on va chercher à matérialiser Dieu. Dieu est invisible. Il a accepté. Le plus grand travailleur dans l'ombre, c'est Dieu lui-même. Il est invisible. Mais il agit. On voit les fleurs. On voit les arbres. Son propre fils a suivi le même chemin. Il est ressuscité, mais il ne s'est pas montré. Travailleur dans l'ombre. Vous savez, il y a certains chrétiens, parfois, ils sont critiqués dans une région. Dieu leur change de région, et il fait de grandes choses avec eux. Mais pourtant, qu'est-ce que nous, on aurait souhaité? Là où ils étaient critiqués, c'est que c'est ça, là où Dieu va faire de grandes choses. Afin que les gens ferment leur bouche. Non, Dieu est venu sauver. Il n'est pas venu fermer la bouche. Il est venu sauver. Et Dieu va te changer de région. C'est quand tu changes de région qu'il commence à t'utiliser puissamment parce qu'il sait qu'il n'y aura pas la vengeance. Parce que si tu utilises puissamment, là où les gens se sont moqués de toi, tu auras tendance à vouloir prouver que Dieu est avec toi. Il te change de région. Et quand il te change de région, c'est là que la gloire commence à se manifester. Tu ne peux pas, souvent pour retourner là où tu étais, c'est devenu loin, c'est devenu compliqué, tu es pris par les activités, c'est fini. Mais c'est les gens que toi tu touches dans ta région qui vont circuler, qui vont dire, mais là, nous avons quelqu'un qui est en train de faire des exploits là-bas. Les gens vont dire, mais oui, mais nous on le connaissait, c'était rien du tout. Ah, mais oui, ça c'est vous. Mais là, Dieu est en train d'agir. Mais ce n'est pas toi qui vas te promener avec une logique de « Est-ce que vous m'avez vu? Comment Dieu m'a changé ?» Non. c'est fini. Dieu est bon. Il ne veut pas élever un homme. Il ne veut pas non plus écraser des autres par un autre homme. Non, c'est son esprit qui écrase. Ce n'est pas l'homme qui va le faire. Et on va se moquer de toi ici dans cette ville. Il te change de ville. Il fait des exploits avec toi là-bas. Et les gens apprendront. C'est ça, bien-aimé. Nous devons accepter le travail dans l'ombre, mais dans la gloire, avec le Seigneur. Et nous verrons des fruits immenses. Dieu veut faire des grandes choses, mais il faut qu'on revienne à la Bible. On s'est trop écarté de la Bible en prenant exemple sur le marketing humain, la publicité humaine. Revenons maintenant à la Bible. Restons simples. Nous lisons Matthieu 5, 11 à 12. Quelques versets pour clôturer, que la parole parle aussi.
Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
Amen, amen. Matthieu 6, 6.
Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Amen. Servir Dieu, c'est une affaire de secret personnel avec lui. Ce n'est pas une histoire de publicité, des humains, c'est personnel. Ne cherche pas la pub. Ne cherche pas la reconnaissance, les résultats humains. Cherche Dieu. Dieu te certifie qu'il y aura toujours les résultats parce qu'il est Dieu. Rien de ce qu'on fait, 1 Corinthiens 15, 58 nous le dit, tout ce que nous faisons avec Dieu n'est pas vain. Tout produira. Tout produira. 1 Corinthiens 15, 58. On va lire, frère Simon. Il nous certifie. Ne nous inquiétons pas pour les résultats. Mais dans le secret, servons le Seigneur. Faisons comme si on était seul avec lui, même si c'est un concert. Fais comme si tu es seul avec Dieu. Pendant que tu chantes, tu fais comme si tu étais seul avec lui.
En Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Amen. Continuez, même si ça semble dans l'ombre. Continuez, soyez inébranlables. Même si on vous répète, ah oui, mais il n'y a pas de résultat. Ah ben, tu fais trop de bruit pour rien. C'est pas grave. Tant que c'est dans ton secret avec Dieu, c'est ton service avec le Seigneur, c'est l'adoration avec le Seigneur, continue. Il y a une femme qui a intercédé 14 ans pour son fils. 14 ans. Je fais aussi hommage à toutes ces mamans qui intercèdent pour leurs enfants, qui prient pour leurs enfants. Les enfants grandissent, ils deviennent plus costauds qu'elles. Alors elles n'ont qu'une seule arme, c'est la prière. Que Dieu vous bénisse. Continuez ainsi. Dieu agira. Nous aurons un baptême, là maintenant, de notre frère Tidjane. On a prié pour lui avec sa maman pendant des années. Aujourd'hui, il va se faire baptiser. Nous sommes dans la joie. Quand on partait le visiter sa maman, il sortait de colère dans la maison. Mais aujourd'hui, il entre dans la joie, dans la maison du Seigneur. Il faut continuer, soyons inébranlables. Continuons à prier, il n'y a rien qui est vain. Frère Simon, pardon, Matthieu 5, 12. Je vais donner encore un témoignage, Matthieu 5, 12, de Richard Rumbrandt. Richard Rumbrandt est dans la prison. Une prison, on les a isolés, chaque prisonnier, sa cellule. Et c'est une prison à l'époque du communisme, il ne fallait pas faire de bruit. Donc, et on va lire ce qu'il a pris comme exemple.
Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux.
Voilà. Mais le 11 dit quoi?
Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Voilà. Donc, heureux serez-vous. À un moment, il a été saisi par cette parole, malgré la prison, la souffrance. Il était rempli de joie. Mais il s'est dit, mais tiens, il manque un truc. Il est dit, réjouissez-vous. C'est pas écrit sauter là, au verset 12.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse.
Alors, oui. Dans d'autres passages, c'est écrit, c'est sauter de joie. Il s'est dit, mais tiens, mais je me suis réjoui, mais je n'ai pas sauté de joie. Alors, il a commencé à sauter de joie dans sa cellule en prison. Et puis, le garde, parce qu'il a dit, mais il y a une récompense quand on saute. Il a dit, parce que quand vous êtes dans l'allégresse, il y aura une récompense. Il a commencé à sauter en cherchant la récompense. Alors, le garde, comme on leur avait donné l'ordre, il ne fallait pas avoir de bruit dans ces cellules-là, il est venu supplier, s'il vous plaît. Je crois que vous êtes devenu fou. Calmez-vous, je vais vous donner. Il lui a donné un gros pain et du sucre. Et il a dit, ah, voilà ma récompense. Au nom de Jésus, soyez dans l'allégresse, sautez de joie. Il ne faut pas s'arrêter à dire, bon, on est dans l'allégresse, on saute de joie. Non, il faut vraiment sauter de joie parce que notre récompense sera grande dans le ciel. Désormais, vivre du ciel, ne plus vivre de la terre, vivre du ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Oh, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le meilleur travailleur dans l'ombre, Seigneur. Tu es le plus simple de tous les serviteurs de Dieu. Tu n'as pas voulu te vanter de ta résurrection. Tu nous as laissé en parler, Seigneur. Tu n'as pas voulu te venger de tes ennemis sur la terre parce que la vengeance sera faite une fois pour toutes le jour du jugement dernier. Et Seigneur, nous voulons t'imiter, Seigneur, que tu sois notre sagesse, notre façon de fonctionner, notre manière d'agir, Seigneur. Merci, Seigneur, de transformer nos cœurs, que nous puissions te servir, Seigneur, te servir en attendant la récompense céleste, pas te servir pour être applaudi, acclamé, félicité sur la terre, mais parce que, Seigneur, nous sommes touchés par ton amour, pressés par ton amour. Seigneur, comme nous avons dit pendant la prédication, il y a des vérités parfois que nous lisons, mais nous ne saisissons pas, Seigneur. C'est comme si ces paroles-là ne sont pas encore faites chères en nous. Comme ton serviteur David dit dans le psaume 119, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Il ne suffit pas de lire ta loi, il faut que tu nous ouvres les yeux pour qu'on contemple les merveilles qui y sont, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser ces vérités. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 14, l'amour de Christ nous presse, Seigneur. Que ça nous presse, que nous soyons dedans, Seigneur. Réaliser ton amour. Comme le chant qu'on chante, Seigneur, qui dit à la croix, c'est là où j'ai vu, c'est là où que mon aveuglement a cessé, Seigneur, que tout cela devienne réalité pour nous, afin que nous soyons des vrais serviteurs, comme les apôtres Jean et autres, Seigneur. Que nous te servions dans la douceur, dans le secret personnel. Nous voulons vraiment t'imiter. Comme ce même verset de 2 Corinthiens 5, 14 le dit, nous pensons que si un est mort pour tous, nous devons mourir pour celui-là. Seigneur, que nous servions dans cet esprit-là et non pas dans la logique de rétribution personnelle ici sur terre, mais dans la logique de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, que nous puissions, Seigneur, nous diluer dans toi. Oh Seigneur.